comme Werther, je suis un ver de terre, amoureux des étoiles. Je suis Quasimodo, j'ai ma bosse dans mon dos et dessus une voile. Je suis un scamouche, je suis la pauvre mouche empêtrée dans la toile. Je suis cet orphelin de parents saturniens d'origine animale. Je suis un...
Tu es fou enfermé, raison déconnecté. On t'attache
à ton lit.
Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra ton angoisse. Disparaît ce qui se passe. Voilà la traveneuse. Ta solution aqueuse. Si c'est ça une médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça une médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça une médecine, je préfère la guillotine.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors après ce générique des berruriers noirs, les éléphants, une info qui nous a... été rapporté par le CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, que je vais vous lire tout de suite. Alors donc, c'est l'annonce d'une journée santé mentale, la participation dans tous ces états. Ça aura lieu au mois de septembre, jeudi 24 septembre 2026, à la FIAP Jean Monnet, Paris. Alors, c'est pas une invitation à y aller, c'est juste pour annoncer, pour annoncer cet événement sous un regard critique. Voilà. Donc c'est un pré-programme avec la question. Pourquoi recourir à l'engagement des usagers pour la collectivité afin de promouvoir la santé et bâtir des institutions justes ? Rendre concrète la participation des usagers et aidants dans les services. Présentation du projet financé par la Fondation de France, quelques exemples par les acteurs de terrain, Sésame d'Angers, CH de Cadillac, EPSM Lille Métropole, CH Sainte-Marie-Nice sous réserve. À 11h30 de cette journée santé mentale, la participation dans tous ces états, participation dans la cité, participer à son parcours de rétablissement et son projet de vie. Atelier 1, participation et citoyenneté, exemple à SME, la maison de la santé mentale, un espace citoyen dédié à la santé mentale, association Juste à Marseille, J'aime le bon cap et FIGEM. Atelier 2, regard croisé soignant-soigné, rencontrons-nous autrement, ça me fait un peu sourire, avec la maison perchée. Atelier 3, à participer à son parcours d'inclusion sociale et professionnelle. Le modèle des clubhouse est l'exemple de Paris, Working First Marseille. À 13h45, participation dans la cité, participer à son parcours de rétablissement et son projet de vie. La suite. Atelier 1, soignant, personne concernée, élu, pourquoi et comment coopérer. L'exemple des CLSM, animé par le Centre National des Ressources et d'Appui au CLSM alors c'est conseils locaux en santé mentale, CLSM, avec retour d'expérience concrète, atelier de Le Cofort, le modèle Recovery College, une innovation de santé publique, Cofort de Lille, Cofort de Marseille. Alors, il avait été tenté un Cofort à Paris, ça n'a pas du tout fonctionné. On a vu des chefs arriver, voulant s'occuper de tout et reléguant encore une fois de plus les personnes concernées sous tutelle, en fait. Voilà. Ça fait clash et ça s'est terminé comme ça. 14h45 de cette journée, participation à la recherche, trois manières de la penser avec quels effets. Tabapsi, recherche action participative menée par la CCOMS, témoignage de l'EPSM Val-de-Lys-Artois, la communauté mixte de recherche en santé mentale de Bretagne, communauté mixte de recherche sur la pérédance en santé mentale, et enfin à 15h45, la conclusion. Alors, pourquoi on fait l'annonce de cette journée santé mentale, la participation dans tous ces états du jeudi 24 septembre 2026 à la FIAP Jean Monnet à Paris? Eh bien, pour le commenter, enfin, je vais vous plutôt, plus exactement, vous lire le commentaire du président de l'association CRPA, André Bitton. Donc le CRPA, Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Bonjour, à propos d'un pré-programme du CCOMS sur la participation des personnes psychiatrisées, un début d'analyse de texte. Le concept de participation n'est vraiment pas inscrit pour rien à l'ensemble des occurrences de ce programme. Participer à, c'est être partie à quelque chose qui s'élabore et qu'on suppose hors de soi. En l'espèce, les personnes psychiatrisées de service sont recrutées afin qu'ils participent à leur propre rétablissement ainsi qu'à leur insertion ou réinsertion en étant détachées d'elles-mêmes dans une mise en miroir de leur inexistence. Il s'agit d'essayer d'être quelque chose ou quelqu'un alors que dans un tel schéma, pour l'essentiel, ce sont l'entourage et les professionnels qui sont acteurs. Dans cette utilisation répétitive du concept de participation sont mis de côté la volonté, l'autonomie ainsi que la dignité personnelle des individus concernés dont il ne reste plus grand-chose. En droit contemporain, nous sommes propriétaires de nous-mêmes, certes jusqu'à un certain point, mais en tout cas, ce n'est pas la société ou autrui qui sont en propriété de soi-même, mais bien nous-mêmes avec des limites et des cas d'exception. Bon, ça c'est un petit peu à creuser. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ça, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Le corps humain est incessible, un article au fondement du Code civil. En principe, on n'a pas à participer à son rétablissement, on doit en être l'acteur clé. C'est le reste du dispositif qui participe à votre rétablissement. On a ici une preuve lexicale et sémantique parmi d'autres de ce que les personnes psychiatrisées dans le regard social comme celui des professionnels ne sont pas des... les personnes psychiatrisées ne seraient pas des êtres humains à part entière. Certes, l'égalité de droit et de principe est une fiction juridique qui remonte d'ailleurs aux décideurs britanniques du XVIIe siècle et qui a été universalisée par les constituants français durant la période de la Révolution française. Mais nous avons besoin de ce genre de fiction inscrite au fronton des bâtiments publics, comme au principe d'ouvrage de droit et de philosophie politique, pour pouvoir argumenter, pour pouvoir accéder à quoi que ce soit, lorsque précisément on n'y accède pas. L'an passé, nous avons eu une preuve éclatante de ce que certains professionnels à Paris, épaulés par des personnes psychiatrisées à leur service, ne tolèrent pas qu'on puisse avoir une expertise autonome, qu'on puisse être à égalité avec eux et générer nos propres activités en indépendance. Voir l'échec du 5e projet Cofort Paris entre septembre 2024 et mars 2025. Mes salutations, André Bitton pour le CRP. Eh bien, nous n'avons pas grand-chose à ajouter. Et je vais passer à autre chose, un vieil article de Sans Remède, de la revue Sans Remède, ici en l'occurrence, le Sans Remède numéro 2, décembre 2010, et qui s'intitule... c'est un article de C, et c'est un article critique de la psychiatrie par une personne qui était concernée. Et en l'occurrence, C. Et dont le titre, article dont le titre est assez long, et qui est le suivant. Éructation monomaniaque participant d'un délire organisé, caractérisé, dénotant une agressivité pulsionnelle à tendance paranoïaque, s'alimentant d'une haine infondée des blouses blanches, leur sbire, le monde dont ils participent. D'aussi loin que je me souvienne, au cours de mes allers-retours entre hôpital psychiatrique dans les murs ou psychiatrisation à domicile par le biais de psychotropes et de rendez-vous médicaux psy divers, il ne me semble pas que l'on m'ait jamais vraiment demandé mon avis sur les soins que je recevais. S'il m'est arrivé d'en être surprise à l'époque, aujourd'hui, je sais autant que je sens que le patient a toujours, toujours été oublié. Et ce sentiment se confirme trop souvent, particulièrement lorsque je vois ce que même les documentaristes prétendant s'intéresser à ce sujet de société poussiéreux pour le remettre à la mode, question d'audimat et d'actualité de réforme de santé oblige, se permettent, en termes de prise de vue, sans aucun intérêt, assortis d'une voix off destinée à tirer des larmes aux bons samaritains concernés par la douleur du monde, sans, sur 1h10 de film « Donner la parole », plus d'une dizaine de minutes au psychiatrisé. Dans « Un monde s'en fout ?» point d'interrogation, donc un documentaire de cette époque, on entend en vrac des experts, des psys, des infirmières, des scientifiques de « je te trifouille le crâne », des directeurs de grandes entreprises et même Marie-Anne Monchamp, députée UMP, à l'époque présidente de Fondamental, fondation qui récolte des fonds auprès de très grandes entreprises pour la recherche en prévention. De ce que nous pouvons bien penser de la manière dont on nous traite, pas un mot. Mais si ce tour de force, jamais habile, car l'idée est trop ancrée dans les crânes que nous ne pouvons avoir de paroles intelligibles ou dignes d'intérêt sur ce que nous subissons, donc si ce tour de force n'est ni neuf ni surprenant, il mérite néanmoins d'être interrogé. Quelle place nous assigne-t-on lorsque nous entrons dans l'engrenage psychiatrique ? Le pouvoir de contrôle normatif et coercitif qu'exerce sur nous, individus, l'État, au moyen de ses multiples institutions, se critique avec autant de raisons, de bonnes raisons, à l'HP, qu'en tôle, à Pôle emploi, à l'école ou à la maternité. Il va de soi que l'hôpital psychiatrique n'est en rien une entreprise philanthropique destinée à sortir de leur cercle vicieux les hordes de schizophrènes qui nous menacent jusque dans nos chaumières, les délirants qui nous empêchent de lire peinards les gratuits dans les transports, ou les dépressifs ayant pourtant tout pour être heureux, qui nous renvoient toujours un peu au fait que la vie est parfois d'une quotidienneté exténuante et qu'avoir trouvé une place dans ce monde et s'en satisfaire n'est pas forcément si gratifiant. Il arrive sûrement que l'HP, d'aventure et par hasard, sorte de son marasme un individu en peine, au même titre que la foi, avec un F majuscule, fait parfois des miracles, bien que cela ne soit ni son pain quotidien, ni son but premier. L'HP, comme n'importe quelle autre institution, se destine à la remise dans le droit chemin d'une certaine catégorie d'individus. On envoie les enfants au bourrage de crâne, les valides au travail ou à Pôle emploi, ceux qui débordent du cadre légal sans s'être assurés d'avoir des potes assez haut placés, en tôle, et les autres, ceux dont on ne sait pas bien quoi foutre, à la case poubelle, au retraitement des déchets humains, au rafistolage des déjà trop usés par le monde, se faire refaire une identité viable à l'HP. Parce qu'il faut bien se dire qu'aujourd'hui, une personne sur quatre traverse un épisode dépressif ou rencontre un problème de santé mentale. Que se passe-t-il si nous mettons entre parenthèses un quart de notre ressource humaine ? Je vous le donne en mille. Nous nous disqualifions totalement de la compétition économique. Comment vous dire, Madame Marie-Anne Monchamp, que lorsque je me souviens de ce que j'ai vécu enfermé entre quatre murs de mes collègues d'internement détruits par des années de psychiatrie, qu'être une ressource humaine dans la compétition économique est le cadet de mes soucis ? D'un coup, s'habiller en humaniste pour pallier le caractère destructif et pathogène d'un monde que l'on s'acharne jour après jour à rendre durable, rôle hautement noble que s'arrogent pourtant tous ceux qui prêtent le serment d'Hippocrate, la main sur le cœur, renvoyant au turbin chaque jour ceux qu'ils tentent de remettre moins bancal sur le chemin de la productivité, semble une démarche pour le moins frelatée. Votre histoire d'hygiène mentale, de là où je suis, elle pue le moisi. On met en place des ateliers pratiques hygiène de vie pour accélérer la réadaptation au monde du travail. C'est entendu, l'HP n'est, au regard de la santé publique, qu'une sous-branche et fonctionne de la même manière, à ceci près évidemment que prendre du Smecta en cas de gastro n'a pas exactement les mêmes incidences que de se faire bouleverser la chimie du cerveau par des psychotropes, parce qu'en l'état, elle ne fonctionne pas comme elle devrait. Enfin, d'aucuns ont des frissons de bonheur en imaginant les bons de la psychiatrie de demain grâce au progrès de la recherche. Le 21e siècle sera celui des maladies neurologiques et de la prévention au niveau du cerveau, dixit le professeur G. Saillant, président de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, fondation privée reconnue d'utilité publique, qui s'installe tranquillement dans l'hôpital parisien de la Salpêtrière où 600 chercheurs devraient être réunis aux côtés des médecins et des malades dans un bâtiment de 22 000 mètres carrés, lit-on dans Direct Matin du 29 avril 2010. Moi, ce qui me fait rêver, c'est, je cite, « la cérébrothèque de 5000 cerveaux du centre de ressources biologiques du lieu ». C'est vrai qu'à gober toutes leurs drogues en vente libre, prescrites et distribuées en quantité colossale, et me voir grossir, baver, prendre, perdre de l'acuité visuelle, être bouffé de dyskinésie faciale, avoir des montées de lait, ne plus dormir qu'à contre-temps et fumer comme une psychiatrisée, je rêve d'aller servir de cobaye à leurs expériences sanitaires qui se racontent pour mon bien. J'adore l'idée d'aller usager leurs services publics de normalisation, de consommer leurs nouvelles pilules miracles, d'être client objet de leur lieu thérapeutique, d'entretenir mon capital santé. Et peut-être même qu'un jour j'irai aux États-Unis me faire poser un pacemaker cérébral. Comme une des patientes que l'on voit dans le documentaire, je pourrais dire « Le quatrième jour, on a trouvé le bon réglage, celui qui me convient réellement ». Du long de mes 5 années de médication, je me rappelle avoir tenté très souvent et trop souvent maladroitement d'arrêter mon traitement. Je voulais connaître, retrouver, découvrir la vraie moi, celle qui n'a pas besoin de se droguer pour supporter de vivre. Et lorsque je relis les quelques cahiers gribouillés noircis lors de mes internements, je retombe sur des mots toujours trop semblables à ceux qui suivent. J'ai très mal, bientôt 20 ans, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des antihistaminiques, des somnifères, des neuroleptiques, un pilulier à faire pâlir un parkinsonien. Et rien à l'intérieur de moi qui ne soit déclenché par une réaction chimique à l'un des éléments, à l'une des molécules que j'ingère. Si j'oublie mes anxiolytiques, si je reste sans les prendre, alors j'ai un mal, un vide d'horreur, une demi-heure après la prise de mon demi-rivotril, tout va bien. On me bâillonne, mon état renvoie les soignants à leur impuissance. Quand, comment, par quoi, par qui, pourquoi guérirai-je un jour ? Personne ne peut répondre à aucune de ces questions. Je suis un poids, un vide, un pourquoi. Tout est lent, triste et douloureux. Je ne peux même plus penser. Fin de l'extrait de carnet. Arrêter de prendre des médicaments a été la meilleure décision prise par et pour moi depuis des années. et y parvenir ma plus jolie victoire, ma plus belle revanche sur ce que l'on avait fait de moi. Cela a été dur, long, solitaire, cela m'a pris plus d'une année, mais chaque chose que je sens aujourd'hui revêt un caractère authentique tellement rassurant. Alors comment fait-on lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'arrêter de prendre des médicaments ? Comment fait-on pour s'arracher du corps un pacemaker cérébral ? La dérive scientifico-rationnelle qui consiste à assimiler une altération des humeurs glandulaires cérébrales à la douleur de vivre produite par nos quotidiens ressemble à s'y méprendre aux tentatives d'expliquer le caractère vicieux des prostituées au XIXe siècle par une analyse de leur voûte plantaire. Rassurons-nous, bientôt on expliquera la vague de suicides sur le lieu de travail depuis une quinzaine d'années par une déficience hypothalamusmatique ou une mauvaise texture du liquide rachidien. Mais grâce à Fonda Mental, on évaluera tous nos désordres, tous nos dysfonctionnements lors du diagnostic préimplantatoire et les embryons n'ayant pas la bonne couleur d'yeux seront aspirés à la pipette comme ceux présentant des risques de schizophrénie. Et ceux qui seront passés entre les mailles du filet seront détectés sur les bancs de l'école primaire par Dominique, T-O-M-I-N-I-C, avec un D majuscule. Et qu'est-ce que c'était Dominique ? C'était... le Dominique interactif, c'était un questionnaire informatisé auto-administré à des fins de dépistage des problèmes de santé mentale des enfants de 6 à 11 ans qui donne en 10 à 15 minutes une lecture des tendances de l'enfant aux 7 problèmes de santé mentale. C'est la référence, c'est un article de l'envolée numéro 17 quand Dominique nous nique. Et donc voilà, je ne sais pas si ça existe toujours ce système-là. Depuis 2010. Donc, seront détectés sur les bancs de l'école, voire à l'âge de 3 ans en maternelle. Enfin, tout rentrera dans l'ordre. Avant d'en arriver là, il va falloir continuer à reconditionner tout ce petit monde d'anormaux, continuer au moyen de Médoc de réduire le caractère bruyant du trouble des patients. Heureusement, aujourd'hui, déjà, l'institution psychiatrique fonctionne à merveille dans son recyclage des fous, inutiles, déviants ou aberrants dans son système, en soustrayant toutes ces folies mal intégrées au regard des normaux pudibonds avec leur bénédiction. Une fois admis en psychiatrie, sous la domination, la surveillance des blouses blanches, une fois en leur pouvoir, nous, psychiatrisés, allons pouvoir leur offrir une raison d'être, les justifier au monde, participer à la croissance délirante de l'industrie pharmaceutique dont les miettes qu'ils ramassent sous forme de pince-fesses et de petits fours semblent les satisfaire, tout en les habillant de l'aura de ceux qui n'ont pas peur de mettre les mains dans la merde pour sauver trois pelés de tondus qui n'ont même pas toute leur tête, espérant en su, mais toujours humblement et modestement, révolutionner le mal de vivre en le localisant physiquement. L'arnaque est bien assez énorme pour passer aux yeux des plus normés que normés. Mon mal de vivre ce monde ne se soigne pas, ne guérit pas, ne s'aménage pas. Jamais. Je me sens mal et bien à la fois, douleur de la neutralité étendue à tout mon corps, je n'ai ni faim, ni soif, ni froid, ni chaud. Heureusement que ça me gratte de temps en temps, sinon ce serait mortel. Voilà, c'est un article de C. Alors, les citations qui ont parsemé cet article, donc c'est par exemple la première là, c'était le patient a toujours été oublié. Les médecins gardent la folie pour eux, c'est leur gagne-pain. Alors ces deux citations, sont de Monsieur Iglesias. Électricien à Ville-Évrard, cet homme à tout faire est le seul dont on a l'impression qu'il fait preuve d'un peu d'intelligence humaine dans le documentaire autour de la folie. Histoire autour de la folie. Donc le seul au milieu de la cohorte de personnel soignant interviewé sur l'histoire de cet hosto. Après, donc on a eu les extraits de textes écrits par C lors de ses internements. Et puis, eh bien, bien sûr, des citations de psychiatres et autres dans le documentaire « Survie Lévrard, histoire autour de la folie », où l'on trouve plus de psychiatres décomplexés que de factotums humainement intelligents, dit le commentaire. Voilà, c'était un article de Sans Remède, numéro 2, de décembre 2010.
Dreams of memories. I'm so tired, so tired.
Centaines de camions multicolores qui dansent dans tous les sens et ça remplace un système solaire de camions. petit à peu je redescends sur terre et je fume une espèce de pierre violette magique et ça fait peur à quelqu'un qui est du gène de vomi. Parce que le mec du gène de vomi il dit c'est une pierre violette avec des pouvoirs capillaires maléfiques. Puis après le rêve il s'arrête. Une fois j'ai rêvé que je me connectais avec des marches rouges et que je faisais l'amour aux marches rouges. Et après je rencontrais un hindouiste et puis après en fait je rentrais dans des espèces de toboggans tout rouge et en tous les sens dans des souterrains. Et en fait après je me retrouve dans des espèces de... en descendant les toboggans, je me trouve dans des espèces de marches. Et des marches rouges, je me postère sur les marches et je fais l'amour aux marches. En marche d'escalier. Et après je me retrouve avec un hindouiste très étrange qui charme des serpents et qui les bute. Et puis après il me parle et tout, il me dit que je dois rencontrer un truc prophétique, je sais pas quoi, au niveau de la couleur violette et la couleur rouge. Et puis après il se passe des trucs incroyables avec un Louis qui était complètement parfait. Et en fait, j'étais avec un mec qui était tombé amoureux du fromage. Je sais pas pourquoi, j'étais tombé amoureux. Et après, j'en passe. Et après on mangeait du camembert, après j'étais complètement tombé dans le couche-culotte. Et le facteur il arrive, il balance les bruits dans tous les sens. Il y a un colis qui arrive sur le fil électrique. Et ma mère, tout d'un coup, elle se met à grimper sur le fil électrique, elle se rend son bassin. Et elle prend le colis. Et puis ça va tellement vite qu'on veut retrouver dans la forêt, dans le jardin. Et puis après, elle arrive, elle balance le colis dans le jardin. Et dans le colis, il y a un espèce de pantalon, ça vient maigrir, donc il va aller plus. Et j'étais à cette taille-là, j'étais plus au bout. En fait, ma mère me dit non, c'est pas un bon pantalon parce que c'est un pantalon fait pour les éléphants de la jardin. C'est un pantalon, un sarouel violet qui était préparé pour des éléphants. Et ça, les éléphants les avaient portés. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais mettre une ceinture, je vais le porter. Puis après, tout d'un coup, je m'endors. Et j'ai une crise de somnambulisme dans le rêve. Et après, j'ai une crise de somnambulisme et je cours au milieu de plein d'assistantes sociales. Il y a plein d'assistantes sociales partout dans tous les sens. Et je cours entre elles, dans tous les sens, dans des escaliers. Et après,
Radio Libertaire, toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. On vient d'entendre des morceaux des gens du 110. Voilà. Et maintenant, on parlait récemment dans les émissions précédentes de la psychanalyse et sa relation avec le politique. Je fais un coucou à Sylvie au passage et qui va peut-être nous revenir la semaine prochaine pour qu'on puisse continuer à justement aborder cette problématique. En attendant, j'avais envie quand même de vous lire un extrait d'un article qui raconte, Wilhelm Reich, parcours d'un inventeur par David Le Sellem. Donc il y a vraiment un résumé biographique, mais assez long, et dont je ne vais pas donner seulement un épisode. Voilà, alors. Donc là, il est sur ses recherches avec la bioélectricité du corps. Il va à travers des schémas complexes détailler le fonctionnement de l'orgasme et en extraire la formule qui présente ainsi tension, charge, décharge. Relaxation. Et puis plus précisément, il indique tension mécanique, charge électrique, décharge électrique, relaxation mécanique. Et ce système, à la fois psychique et neurologique, repose sur une opposition angoisse-plaisir. Pour Reich, rétablir la santé de ses patients, c'est donc les soulager de leur angoisse et leur permettre de retrouver un rapport de satisfaction à leur corps, et notamment grâce à la satisfaction orgastique. Il décrit que les patients ont appris à la réprimer durant leur enfance. Il en résulte une énergie qui stagne dans le corps, provoquant nœuds et tensions musculaires, etc. Alors, Donc, bon, ces théories sont parfois discutables. Dans le sens où la répression sexuelle qui pouvait sévir à l'époque où Reich faisait ces recherches-là, est-ce qu'elle existe toujours aussi intensément aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Alors, je poursuis là un peu la lecture de cet extrait. Le traitement qu'il propose est dans un premier temps individuel, au cas par cas. S'il conserve sa pratique de l'analyse caractérologique, il y additionne une pratique novatrice à partir de sa théorie pour la faire évoluer en végétothérapie caractéro-analytique. Et qui consiste en une observation assidue et précise de la rigidité musculaire du patient dans l'ensemble de son corps, de son visage. Reich s'intéresse ainsi aux mimiques, aux grimaces de ses patients, leurs attitudes, leur posture, leur regard, leur expression, leur respiration abdominale, bref, leur attitude musculaire et leur expression corporelle. Et au cours des entretiens qu'il mène, il interprète tous ces éléments en regard à la fois des propos du patient et des considérations bioénergétiques qu'il a repérées. Il restitue alors au patient ses interprétations tant sur les aspects psychiques que physiques de ce dernier. Il amène ainsi ses patients à considérer leur relation à leur corps en fonction des symptômes, souvenirs et rêves qu'ils énoncent. Concrètement, il leur fait des remarques sur leur attitude corporelle, leur rigidité et leur demande d'associer à partir de là. Il leur demande donc de parler de leur corps parfois dès le premier entretien, parfois au cours du traitement qui a alors débuté par un travail d'association libre, selon sa technique de l'analyse caractérielle. Il explique notamment que lorsqu'une inhibition caractérielle refusait de répondre à l'influence psychique, je m'attaquais à l'attitude somatique correspondante. Pardon. Au contraire, lorsqu'une attitude musculaire perturbée s'avérait difficile à saisir, je l'abordais par son expression caractérologique et ainsi je la contraignais à céder. Donc c'est dans la fonction de l'orgasme. Cela démontre comment Reich considère l'être humain, c'est-à-dire comme un système bioénergétique au sein duquel les principes psychiques et corporels qui apparaissent antinomiques sont en fait unitaires. Ce qu'il observe en quelques semaines chez ses patients, c'est alors une amélioration de leur état, visible quant à une diminution des tensions énergétiques dans leur corps. Ils connaissent alors une libération à la fois de leurs tensions physiques et symptômes psychiques. Reich parle là d'un recouvrement du réflexe de l'orgasme. C'est ce que vise Reich, le rétablissement d'une fonction orgastique qui annulera donc l'angoisse grâce à la circulation de l'énergie, grâce à la satisfaction sexuelle retrouvée. Il donne par ailleurs de nombreux exemples détaillés de sa pratique, tant sur les dires des patients que leur attitude corporelle, ainsi que ses interprétations et leurs effets. Il détaille par exemple le cas d'un homme de 27 ans qui vient le consulter pour traiter son éthylisme chronique et lui parler de son mariage malheureux et que Reich va prendre en traitement sur plusieurs mois, indiquant très précisément sa méthode et jusqu'à sa guérison complète. En voici un court extrait du début du traitement. Alors, on va retrouver la page. D'accord, j'ai perdu la page. Je vais chercher donc dans le livre la fonction de l'orgasme. C'est page 243-244. Voilà. Dès la première séance, je dus faire face à cette question, écrit Wilhelm Reich, donc dans La fonction de l'orgasme. Fallait-il commencer avec sa réserve psychique ou avec sa très frappante expression du visage ? Je préférais la seconde manière et laissais à plus tard le soin de décider quand et comment je m'attaquerais au problème de la réserve psychique. Ma description répétée de l'attitude rigide de sa bouche eut pour résultat de faire apparaître dans ses lèvres un tremblement clonique, d'abord léger, et qui s'intensifia peu à peu. Il fut surpris par le caractère involontaire de ce tremblement et essaya de le combattre. Je l'encourageais à s'abandonner à toute impulsion qu'il ressentirait. Après cela, ses lèvres commencèrent à saillir et à se rétracter rythmiquement, puis restèrent pendant quelques secondes en saillie comme dans un spasme tonique. Au cours de ce phénomène, son visage prit nettement l'expression d'un enfant au sein. Le patient s'étonna et demanda anxieusement où tout cela allait le mener. Je le rassurai et l'engageai de nouveau à s'abandonner méthodiquement à chaque impulsion et à me faire connaître toute inhibition à une impulsion dont il prendrait conscience. Fin de l'extrait. Et je reprends donc le texte de l'article. En effet, la fonction orgastique est pour Reich naturelle chez tout être humain, mais est soumis à une répression durant l'enfance, produisant un penchant masochiste pour maintenir un état de refus du réflexe orgastique. Pour lui, l'homme est contraint de refuser la décharge orgastique, ce qui entraîne donc symptômes et angoisse. Et la morale comme censeur est au cœur de sa conception de la clinique. La théorie de Reich ressemble en tout point à un procès de la société de son époque. Si l'on retrouve une critique par quelque côté ressemblante chez Freud, dont par exemple les trois essais sur la théorie de la sexualité ou les articles sur la vie sexuelle, ont connu un accueil et une critique des plus sévères et moralistes, la position de Freud n'a cependant jamais été de fustiger la société, mais de tenter d'en repérer les fondements, et notamment culturellement. Freud est resté attaché à une historicité singulière de la sexualité chez chaque individu. La démarche de Reich est différente, elle repose sur une responsabilité primordiale de la société dans le développement des pathologies des individus, et surtout des pathologies sexuelles. Donc, il y a eu ensuite, à la suite de Reich, des penseurs, des chercheurs qui ont critiqué Reich et en même temps qui eux-mêmes essayaient d'associer Marx avec la psychanalyse, essayaient de trouver des passerelles ou une espèce de trans... je ne sais plus comment on dit... transdisciplinarité ou quelque chose comme ça. William Reich considérait lui-même comme un des premiers freudo-marxistes. Et je cite un article intitulé « École de Francfort et Freudo-Marxisme sur la pluralité des articulations entre psychanalyse et théorie de la société » de Katia Genel. Katia Genel, maître de conférence en philosophie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle est membre du Centre de recherche sur l'histoire des systèmes de pensée modernes. Ses recherches portent sur les différentes approches critiques de la société et leurs enjeux méthodologiques. Elle est l'auteur de l'ouvrage « Autorité et émancipation ». Des matérialismes dialectiques et psychanalyse en 1929, Wilhelm Reich s'intéresse aux mécanismes psychologiques qui soutiennent le système capitaliste, lui aussi, et qui entrave la conscience de classe et l'avènement d'un sujet historique. Il analyse dans ce contexte la fonction sociale de la famille comme vecteur de production des structures mentales socialement nécessaires à la perpétuation de l'ordre existant. Avec la psychologie de masse du fascisme, il décrit la famille patriarcale qui produit le caractère autoritaire comme étant en quelque sorte un état autoritaire en miniature, la famille. Et la psychanalyse est ici reprise en même temps qu'elle est critiquée. L'organisation psychique doit toujours être resituée socialement et rapportée au monde de production capitaliste. C'est ce qui rend possible une transformation aussi bien des individus que de la société. Dès la fin des années 20, Reich est accusé par Siegfried Bernfeld de défendre un matérialisme étroit et d'avoir une notion positive de santé sexuelle liée à la génitalité qui relève d'un dévoiement des conceptions de la psychanalyse, purgée des hypothèses métaphysiques et restreinte à la clinique. On voit qui sait ici une partie des arguments qui seront dirigés par Adorno contre Reich, voire une partie de ceux qui seront dirigés contre Erich Fromm. Voilà, bon, ça c'est l'histoire un peu de ces joutes en quelque sorte intellectuelles entre ces chercheurs de l'école de Francfort. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors donc voilà, c'était l'idée en fait des freudo-marxistes, enfin, ou de l'école de Francfort, ce qu'on peut distinguer un peu, c'est pas exactement la même chose. C'était de certains, comme Reich en tout cas, c'était l'idée que si on guérissait les individus, faire des individus qui seraient, qui deviendraient révolutionnaires et qui entraîneraient ensuite toute la société dans la révolution. Il y avait un peu cette drôle d'idée-là à l'époque. Mais on peut dire aussi que d'après les extraits aussi. De la biographie que je vous ai lue tout à l'heure sur ces séances thérapeutiques. Wilhelm Reich, Parcours d'un inventeur, article de David Selem. Il pose des jalons qu'on reprend encore d'une manière bien différente, mais d'autres soignants, des psychiatres notamment américains autour de la SSPT ou des SSPT, c'est-à-dire le syndrome de stress post-traumatique où sont nécessaires des interventions et des activités corporelles du patient ou de la patiente. Le fait que l'esprit est indissociable du corps et que le corps a la mémoire des événements qu'il traverse et donc des traumatismes. Pour dire qu'il n'y a pas rien dans Reich, qu'il y a aussi quand même des indices, il était précurseur dans une certaine mesure de certaines formes thérapeutiques corporelles. Voilà. Alors après, dont on peut discuter si elles ne sont pas trop métaphysiques, mais que leur usage donc soit vraiment justifié par des choses vérifiables. Bon, je pense que c'est fini l'entonnoir. Je voulais pas dire autre chose aujourd'hui et comme c'était un petit peu improvisé, un peu à l'arrache, c'est comme ça que ça va se terminer. Il reste pourtant reste 10 minutes, alors bon, dans ces 10 dernières minutes, je vais faire juste l'annonce que la Mad Pride se prépare toujours, elle aura lieu au mois d'octobre, la Mad Pride à Paris. Il y a aussi une qui se prépare à Marseille. Il y a une Fada Pride à Marseille. Et l'article de Paris Lutte Info, publié le 6 mai 2026, publie le 6 mai 2026 un appel à propos de cette co-organisation de la Mad Pride Autonome Paris, eh bien à des rendez-vous réguliers à la mutinerie. Maintenant, je n'ai pas les dates prochaines, mais on peut écrire. Alors, je vais vous lire quand même le. On a le temps de lire un peu l'énoncé. Donc, c'est une AG deux fois par mois à la mutinerie. Demandez le lien de la visio par mail à madprideautonomeparis@protonmail.com. C'est donc là que vous pouvez aussi avoir les rendez-vous visio. L'organisation intercollective de la Mad Pride Autonome Paris appelle à la participation de personnes et collectifs de personnes concernées par la psychiatrisation à l'organisation de la Mad Pride 2026. Notre ligne, par-dessus toute chose, nous tenons à des rapports militants qui relèvent du soin et du respect. Nous pensons que le processus d'organisation commune de la Mad Pride est aussi important, sinon plus, que l'événement final lui-même. Notre ligne est anti-psy, nous défendons une ligne abolitionniste, anticarcérale et revendiquons le soin communautaire. Nous tenons à une non-mixité de personnes psychiatrisées et à l'exclusion de tous et toutes soignants de nos luttes. Hors père aidant, hors institution. Nous voulons une Mad Pride autonome, mais également ouverte et avant tout festive. Notre ligne est intersectionnelle, nous sommes attentifs et attentives à toute forme de domination et tenons à ce que celles et ceux d'entre nous qui sont multiplement opprimés soient présents et présentes. Nous voulons une Mad Pride queer, féministe, anti-validiste, anti-raciste et anti-capitaliste. Nous avons besoin de bras pour préparer et animer les réunions, trouver des financements, organiser des ateliers créatifs, faire de la communication, du graphisme, trouver des espaces d'organisation et de stockage, assurer des transports à Paris et plus largement animer les ateliers que nous organiserons, pancartes, hymnes, création d'un drapeau, costumes, peintures, etc. Nos situations de personnes psychiatrisées sont précaires, nous avons peu d'espaces communautaires autonomes, peu d'espaces de solidarité et de lutte, peu d'occasions d'être ensemble. Nous voulons rompre avec cette situation. Notre espoir est que l'organisation de la Mad Pride tisse entre nous des liens durables et solides, nous permette de nous rencontrer et de faire front face à un monde toujours plus dur. Pour que chaque personne psychiatrisée puisse prendre la rue, manifester son identité, ses colères et ses joies, porter ses revendications, pour retrouver une agentivité collective. À qui nous nous adressons ? À l'exclusion des soignants et soignantes, toute personne ou collectif incluant des personnes concernées se reconnaissent dans notre ligne et est bienvenue. Se reconnaissant dans notre ligne et bienvenue, qu'il ou qu'elle ait déjà milité ou non, qu'elle soit affiliée à un collectif ou non. Donc c'est les dates, oui, il y a quand même des dates. Alors, la prochaine aura lieu le jeudi 2 juillet à 13h à la mutinerie. Donc, 13h à la mutinerie ou en visio, jeudi 2 juillet, en écrivant à Mad Pride Autonome Paris, tout ça en un seul mot, compact, @protonmail.com. Voilà, et puis des annonces qui ne concernent plus l'entonnoir, mais Radio Libertaire et la Librairie Publico. Alors, c'est la fête de En veux-tu, en v'là. En veux-tu, en v'là, l'émission. Je ne sais même plus c'est quand elle a lieu, cette émission sur la grille des programmes. Je vais quand même lire l'annonce de l'événement. En veux-tu, en v'là, fête ses 15 ans. Au Cirque électrique, samedi 27 juin 2026. Prix libre 18h. Avec le groupe Tombouctou, Radical Kitten, Chien Bernard, Rindo Cats, PIP, plus DJ7, Chouchant, plus Stand, Label, plus Expo. Au Cirque électrique, donc à partir de 18h, à prix libre, samedi 27 juin 2026, la fête des 15 ans de l'émission En veux-tu, en v'là. Autre événement, samedi 27 et dimanche 28 juin, de 11h à 19h, Publico en fête d'été, grande braderie de livres, de CD et de DVD, avec des concerts surprises. Voilà, donc ça se passera à Publico, au 145 rue Amelot, 75011 Paris, métro Oberkampf République ou Fille du Calvaire, samedi 27 et dimanche 28 juin, de 11h à 19h. Et moi je vous dis au revoir et nous allons nous retrouver avec l'émission de Fabrice et de Radio Libertaire Méditerranée, Un rayon de soleil. Salut.
Es la lucha por la libertad contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
rayon de soleil.
Bonjour à tous, bienvenue dans Rayon de Soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 sur Paris et la région parisienne, en DAB+ aussi, et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. Oui, Radio Libertaire, la radio sans publicité, sans Dieu et sans maître, une radio absolument libertaire. Et que l'on va écouter aujourd'hui. Nous allons. Le programme sera en grande partie consacré aujourd'hui de l'émission à la grande parade du jazz de Nice, hein, enregistrée le 13 juillet 1978 avec Buddy Rich. Voilà. Et puis une petite surprise en fin d'émission. Voilà. Bonne écoute, bon jazz.